Psaume 24. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite, car il l'a fondée sur les mers et affermie sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Quand on lit ce psaume, on pourrait avoir l'impression que finalement c'est une collection de plusieurs éléments qui ont été collés les uns avec les autres, sans avoir vraiment beaucoup de points en commun, sauf si on considère à la lumière du Nouveau Testament que finalement Jésus est la colle qui colle ces trois éléments ensemble et qui unit tous les éléments de ce psaume. La Bible, de toute façon, nous montre Jésus placé au cœur de tout. Jésus est au cœur de tout sans pour autant faire l'ombre au Père. La Bible nous révèle ce mystère de la Trinité. Un seul Dieu qui pourtant existe en trois personnes. Un seul Dieu, mais Père, Fils et Saint-Esprit, qui ne font pas l'ombre l'un à l'autre, qui ont chacun leur rôle, et pourtant qui trouvent leur place dans cette confession de foi du peuple d'Israël, en disant « Écoute Israël, l'Éternel, celui donc qui est le thème de ce psaume, l'Éternel, notre Dieu, il est un. » Et pourtant, la Bible nous révèle que donc, il est Père, Fils, Saint-Esprit. Et en Matthieu 3, 17, le Père nous donne toute autorisation à considérer Jésus comme étant au cœur de tout. Quand devant témoin, il disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Pas de jalousie au sein de la Trinité. Le Père nous indique que Jésus est son Fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection et qu'il a mis à cette place centrale. Place centrale dans la création. Les deux premiers versets, justement, de ce psaume concernent la création et la relation entre la création et son Dieu. Quand le psalmiste dit « À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondée sur les mers et affermie sur les fleuves. » Un des points fondamentaux de l'Ancien Testament, c'est de nous dire que Dieu a créé toute la terre, qu'on n'est pas là par hasard, qu'on n'est pas là par accident, qu'on n'est pas là simplement parce que des éléments circulaient de quelque part. On a déjà vu que donc Moïse nous donne l'histoire de la création avec un objectif précis. si vous vous souvenez de ce qu'on a vu il y a une ou deux semaines, Moïse donc était en train d'écrire pour le peuple d'Israël qui venait de sortir d'Égypte, qui était au mont Sinaï, qui avait devant eux ce choix d'accepter l'alliance que Dieu leur proposait. Et Moïse a voulu leur montrer que ce Dieu, l'Éternel, qui venait d'intervenir en Égypte pour libérer ce peuple, qui les conduisait à travers le désert, qui proposait cette alliance avec eux, ce Dieu-là, c'est le Dieu qui a tout créé. Et donc le Dieu à qui tout appartient. Mais nous voyons donc au sein des révélations bibliques sur la création que finalement, c'est ce Dieu trinitaire qui a tout créé. Déjà, il y a tout un débat à propos du tout premier verset de la Bible, quand la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puisque donc, autant Moïse dit que c'est l'Éternel, Yahvé, qui a donné cette alliance à son peuple, il montre que ce Dieu qui s'est révélé à lui comme Yahvé est le même Dieu qui s'est révélé au patriarche et qui a été là au commencement pour tout créer. Et dans Genèse 1, verset 1, le mot qu'il emploie pour parler de ce Dieu unique qui se révèle sous ses différents noms à travers ses relations avec son peuple, il l'appelle Elohim. Alors ce mot Elohim dans l'hébreu implique un pluriel. Et donc, il y a toutes sortes de débats autour du sens de l'emploi de ce nom dès le premier verset de la Bible pour parler d'un Dieu unique. Normalement, s'il n'y avait qu'une personne, on n'emploierait pas le pluriel. Mais Moïse dit « Elohim a créé les cieux et la terre ». Et par la suite, la Bible nous révèle qu'effectivement, ce Dieu trinitaire était à l'œuvre dans la création, que c'est le Dieu trinitaire qui a fondé le monde sur les mers et affermi sur les fleuves. Genèse 1, verset 1 dit « Elohim a créé les cieux et la terre ». Genèse 1, verset 2 nous dit que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait donc l'Esprit à l'œuvre déjà dans la création. Jean chapitre 1 verset 3 nous dit il y avait en plus Jésus qui était à l'œuvre dans la création. En parlant de cette parole éternelle qui était là au commencement, ce qui nous rappelle directement au récit de la création, cette parole qui était avec Dieu, mais qui en même temps était Dieu, il nous dit « toutes choses ont été faites par elle, par cette parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle ». Et puis quand on continue dans Jean chapitre 1, il continue après en disant « et cette parole est devenue chair, et nous l'avons côtoyée, et nous avons considéré sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et il nous présente cette parole éternelle comme étant la personne de Jésus. Et donc, toutes choses ont été faites par Jésus. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Hébreux 1, verset 2 nous dit « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. » La Bible, donc, au fur et à mesure, nous révèle que c'est ce Dieu éternel qui a créé, qui a fondé la terre. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous à l'œuvre dans cette création. Donc lorsque David, avec ses connaissances de l'époque, révèle cette réalité en disant à l'Éternel la terre, car il l'a fondée sur les mers, la réalité c'est que ce Dieu éternel dont il parlait, c'est ce Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, si tout appartient à l'Éternel, tout, comme va dire Paul aux Colossiens, on peut dire appartient à Christ, puisque Christ était à l'œuvre dans la création. Colossiens chapitre 1, verset 15, « Le Fils est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. » Et lorsque Paul emploie ce terme « premier-né », il n'est pas en train de parler de la naissance de Jésus à Bethléem, puisque bon, les évangiles tracent toutes les générations avant Jésus. Il n'est pas non plus en train de dire que Jésus était la première créature de la création, puisque on vient de voir que Jésus, il était là au commencement, avec Dieu, étant Dieu. Ce terme premier-né parle de son statut, de son rang. Il est le prince héritier de toute la création. Quand la Bible emploie ce terme, c'est pour parler de l'héritier, du prince d'héritier du royaume. D'ailleurs, si vous lisez dans Exode, lorsque Dieu dit à Pharaon de laisser partir son peuple, il dit « car Israël est mon premier-né ». Donc, pas question d'ordre de naissance, mais question de rang. Être le prince héritier du royaume de Dieu, donc le Fils, est le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Comme Jean qui dit rien qui n'a été fait sans lui, Paul ajoute toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre ont été créées en Jésus. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc, lorsque David dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, ça implique également Jésus, car tout a été créé par lui et pour lui. La terre, donc, lui appartient, puisqu'il en est le créateur. Nous lui appartenons, parce qu'il est notre créateur. Nos corps lui appartiennent, déjà en tant que créateur, mais d'autant plus si nous sommes chrétiens, parce que non seulement il est notre créateur, il est aussi notre rédempteur. Il est intervenu pour racheter nos vies, et donc aussi nos corps. Puisque le Seigneur ne rachète pas juste une partie spirituelle. Il achète notre vie tout entière, corps, âme et esprit. Et c'est d'ailleurs l'argument que l'apôtre Paul emploie contre l'idée que les chrétiens pratiquent des péchés sexuels. Dans 1 Corinthiens 6, il nous dit que nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons avec notre corps, puisque notre corps ne nous appartient pas. Ce n'est pas mon choix, ce que je fais de mon corps. C'est le choix du Seigneur, c'est à lui de dire ce que je vais et ne vais pas faire de mon corps. 1 Corinthiens 6, verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez donc la débauche, puisque à l'Éternel, Père, Fils, Saint-Esprit, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Nous appartenons au Seigneur, et d'autant plus si nous utilisons le nom de chrétien et nous disons que nous avons été rachetés par lui. Et puis les versets suivants, justement, nous parlent de cette rédemption, de ce salut que nous avons en Jésus-Christ, et nous montrent que Jésus est au cœur de notre salut, au cœur de notre relation avec Dieu. Si Paul pouvait dire, ou plutôt Jean pouvait dire, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, rien qui existe n'existerait sans Jésus, rien de notre vie spirituelle n'existerait sans Jésus. Aucune relation avec Dieu sans Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous. Verset 3, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face. » De Jacob. Alors on pense que probablement David a écrit ce psaume à l'occasion de faire transporter l'Arche de l'Alliance vers le mont Sion à Jérusalem, où il avait placé une tente spécialement pour accueillir l'Arche de l'Alliance, et que donc chacun de ces trois éléments dans ce psaume, les deux premiers versets, les versets 3 à 6, puis les versets 7 à 9, correspondraient à des étapes différentes dans ce voyage vers l'emplacement sur le mont Sion à Jérusalem. Donc en arrivant au pied du mont Sion, David se posait la question, alors qui a le droit de monter cette montagne jusqu'au lieu saint où se trouvera l'Arche de l'Alliance. Question intéressante. De qui parlait-il? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? La réponse qu'il fournit est entièrement vraie. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Mais de qui parle-t-il? Au risque de vous fâcher ce matin, il ne peut pas parler de nous. Puisque est-ce que nous pouvons dire que nous avons les mains innocentes, que nous avons le cœur pur, que jamais nous ne livrons notre âme au mensonge, que jamais nous ne trompons. Si nous devrions arriver à cette définition, à être à la hauteur de cette définition, il y aurait peu de chances pour nous de monter jusqu'au lieu saint, là où se trouve la présence du Seigneur. Parce que tout ce que David dit quant à la personne qui a le droit de monter dans la présence de Dieu, tout cela est vrai, sauf que la Bible nous dit que justement personne, aucun être vivant, sauf un, ne pourrait voir Dieu et vivre, puisque l'être humain est pécheur de nature, et donc ne supporte pas, ne peut pas exister dans la sainteté de Dieu. Dans Exode chapitre 33, on voit que malgré la relation que Moïse avait avec Dieu, Dieu l'interdisait de sa gloire, parce qu'il disait, tu ne supporterais pas ma gloire, ma sainteté, ce serait trop pour toi. Moïse dit dans le verset 18 d'Exode 33, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. » Dans Luc chapitre 5, on a cette histoire où Pierre se rend compte de la personnalité de Jésus. Il se rend compte que Jésus est bel et bien le Fils de Dieu, que donc il est saint, qu'il est rempli de la gloire de Dieu. La réaction de Pierre, quand il vit cela en Luc 5, 8, c'est de tomber aux genoux de Jésus en disant, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Je ne supporte pas d'être devant une telle sainteté. » Cela souligne le problème que pose cette définition que David nous donne dans ce verset quant à celui qui peut monter jusqu'à la montagne de l'Éternel, jusqu'au lieu saint. Puisque la Bible nous dit qu'aucun être humain n'est saint, car tous, dit Romains 3, 23, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'apôtre Paul, dans les versets précédents, souligne bien à ces chrétiens de Rome en train de lire sa lettre, il dit, nous savons tous que nous sommes enfermés sous le péché, que tous nous sommes pécheurs. Si on est juif, si on est non-juif, on sait qu'on est tous pécheurs. Conclusion donc, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Si ça dépend de nous, la réponse est personne. Puisque personne ne correspond à la définition nécessaire pour y monter. D'autant plus que la Bible nous montre que l'approximatif que nous aimons souvent mettre en avant, l'approximatif que parfois nous cherchons par des moyens religieux de proposer comme une alternative à la sainteté que Dieu nous demande, c'est l'approximation ne suffit pas. Dieu exige la sainteté absolue. Mais personne n'est absolument pur, absolument sans péché. Qui d'entre nous peut dire qu'il a les mains innocentes? Nos mains ont peut-être évité certains péchaient des uns ou des autres, mais la Bible nous dit, et les autres péchaient alors. L'un est aussi coupable que l'autre. L'un est aussi grave que l'autre. Alors je sais que généralement notre nature humaine se cache derrière l'idée que mes péchés sont moins graves que les péchés des autres. Leurs péchés à eux, oui, ça c'est grave. C'est normal que Dieu soit fâché avec ça. Mais bon, moi, ce n'est pas vraiment des péchés. C'est mon caractère, ou c'est mes petites faiblesses. Aux yeux de Dieu, le péché, c'est le péché. Donc, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel et s'élever jusqu'à son lieu saint? La bonne nouvelle, justement, que les apôtres était prêt à répandre partout. La bonne nouvelle que nous présente l'Évangile dans la Bible, c'est qu'il y a un seul qui est digne de monter. Il y a un être humain qui pourra monter à la montagne de l'Éternel et s'élever jusqu'à son lieu saint. Il y a un homme dans l'histoire qui a les mains innocentes, qui a le cœur pur, qui n'a jamais livré son âme au mensonge, qui n'a jamais juré ou trompé. Cet homme, nous montre la Bible, c'est Jésus-Christ. Lui, il peut monter jusqu'au lieu saint, sur la montagne de Dieu. C'est pour cela que, en réalité, Jésus est au cœur de ce psaume. Puisque c'est lui qui a obtenu la bénédiction, la miséricorde du Dieu de son salut. C'est lui qui partage cette bénédiction avec nous, si nous venons à lui par la foi. Pour cela que Romains 8, verset 17, peut nous décrire comme étant les co-héritiers de Christ. Parce que Christ est monté jusqu'au lieu saint, il a reçu cette bénédiction et il le partage avec nous. Nous profitons de son héritage. Nous bénéficions de ce que lui, il a reçu de la part du Père. Hébreux chapitre 2 parle de Jésus comme étant justement ce sacrificateur qui est allé pour nous. Et la suite de la lettre aux Hébreux parle de Jésus qui ouvre cet accès auprès du Père pour nous, qui nous a introduits dans la présence du Père. C'est pour cela que les apôtres pouvaient dire dans le livre des Actes qu'il n'y a de salut en aucun autre, puisqu'il n'y a eu qu'un seul être humain dans toute l'histoire de l'humanité qui correspondait à la définition de ce qu'il fallait pour pouvoir monter la montagne de l'Éternel et de s'élever jusque dans le saint lieu. Donc c'est uniquement à travers lui que nous avons l'espoir d'être sauvés. Pour ça qu'il est tellement essentiel pour nous de nous accrocher à lui, car par nous-mêmes, nous sommes éloignés de la présence de Dieu. Mais en Jésus-Christ, lui, il nous introduit, et la lettre aux Hébreux nous dit qu'il nous donne un libre accès dans la présence de notre Dieu. Lui nous donne sa sainteté, nous permettant de supporter la présence de notre Dieu. Sans lui, nous ne sommes rien. Mais en lui, nous avons accès auprès du Père. Jésus donc est celui qui peut monter la montagne sainte. Et puis donc, nous voyons justement dans la suite de ce psaume, Jésus qui monte jusque dans le lieu saint. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. De notre point de vue, le résultat de l'œuvre de Jésus accomplie sur la croix, c'est notre salut. C'est le fait que nous avons maintenant cet accès auprès du Père. Le fait que nous avons reçu cette sainteté qui nous permet de connaître Dieu. Mais la Bible nous montre également que l'œuvre de Jésus avait aussi des effets sur lui et de son point de vue. Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5, parle des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Mais c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus a reçu la gloire et donc a eu le droit d'entrer dans ce sanctuaire céleste, dans cette salle de trône, dans ce lieu saint où se trouve le Seigneur. David, effectivement, pensait peut-être à la montagne de Sion et à ce lieu saint qui était dessus, mais le Nouveau Testament, surtout la lettre aux Hébreux, nous dit que le tabernacle et puis le temple dans l'Ancien Testament n'étaient que des images faites selon le modèle du véritable sanctuaire, du véritable lieu saint qui se trouve dans la présence de Dieu dans les cieux, là où se trouve le Seigneur. Et donc lorsque Jésus montait cette montagne et puis a été glorifié et que le Père l'a élevé souverainement, alors les paroles de la fin de ce psaume de David trouvent tout leur sens. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle. Ce n'est pas uniquement les portes du temple qui devaient s'ouvrir, mais les portes éternelles qui donnaient accès au trône de Dieu, où Jésus est entré à l'invitation de son Père pour s'asseoir à sa droite sur le trône de sa gloire. Hébreux chapitre 8, versets 1 et 2 nous dit: le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Ces portes éternelles devaient s'ouvrir pour laisser entrer le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats, l'Éternel qui, les premiers versets nous disent, avait créé la terre. Jésus donc a été invité par son Père à passer ses portes éternelles pour s'asseoir sur le trône. Celui qui d'un côté est décrit comme fils de l'homme dans son humanité, mais fils de Dieu dans sa divinité. Donc, qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel. Celui qui, au commencement, était avec Dieu et était Dieu. Celui qui se révèle à Jean dans le premier chapitre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, verset 12, « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite cette étoile. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je suis le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga que Jean emploie quelques versets avant pour parler de l'éternel. Jésus, celui qui est mort, mais qui maintenant est ressuscité et vivant pour toujours, pour nous offrir pour toujours un accès auprès de notre Père. Finalement, non seulement ce psaume, mais toute la Bible tourne notre regard vers lui. Toute la Bible fait l'écho de ces paroles de Dieu que j'ai citées tout à l'heure. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Le Saint-Esprit aussi tourne notre regard vers lui. Jésus a dit « Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Il partagera tout ce que moi j'ai reçu du Père avec vous. » La Bible, le Saint-Esprit, même le Père, tourne notre regard vers Jésus, qui est au cœur de tout. Que Jésus puisse donc être effectivement au cœur de tout pour nous. Qu'il soit également au cœur de notre louange tous les jours. Il était là à la création. Il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, il sera là à la fin, et il a reçu tout pouvoir pour juger toute la création. Il est également celui qui s'est humilié jusqu'à la mort de la croix pour nous offrir la possibilité qui nous était exclue de monter jusque dans la présence de notre Père. Donc que nous puissions l'adorer et le louer.